Une enfant de 12 ans violée et battue parce que juive, le drame de Courbevoie a profondément choqué et imposé l'antisémitisme au cœur de la campagne législative. Après avoir donné les dernières informations sur l'enquête, nous nous interrogeons sur la montée de l'antisémitisme en France et le rôle supposé ou bien réel que joue la France insoumise dans ce climat extrêmement malsain. Avec nous, Élie Corchia, président du Consistoire de France et avocat au barreau de Paris. Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Céline Calvez, députée Renaissance sortante des Hauts-de-Seine, candidate à sa réélection. Alexander Nikolic, député européen du Rassemblement national. François Calfon, eurodéputé, Parti socialiste, place publique et membre du bureau national du PS. Et Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV. Nous faisons avec vous, Dominique, un point complet sur l'enquête. La jeune fille de 12 ans a donc été violée et battue par trois adolescents de 12 et 13 ans. Que sait-on des jeunes suspects?
Alors, on sait que ces auteurs présumés sont originaires de la ville voisine, en tout cas pour au moins deux d'entre eux, de Rueil-Malmaison, milieu socio-professionnel, puisqu'on parle de leurs parents corrects, hein, voire très corrects. Donc, celui qui est âgé de 12 ans fait l'objet d'une mesure éducative provisoire. Les deux autres, mis en examen, placés en détention. La victime connaissait l'un de ses agresseurs, qui serait son ex-petit ami. Je vais mettre des conditionnels quand même, mais qui n'aurait pas supporté qu'elle lui cache le fait qu'elle était de confession juive. En tout cas, des insultes ont été prononcées. Oui. On lui a reproché de ne pas avoir donné cette information, sa proximité avec Israël. Les policiers auraient notamment trouvé dans le téléphone de son ex, petit copain, des propos et des images antisémites, dont un cliché sur lequel on voit un drapeau israélien brûlé. Voilà, donc c'est ce que l'on sait pour l'instant de ces jeunes garçons.
Les deux adolescents de 13 ans ont donc été mis en examen, placés en détention provisoire. Comment se déroule la prise en charge d'adolescents si jeunes pour des faits aussi graves?
Alors, il y a deux possibilités. Soit on les place dans un établissement pour mineurs, il en existe 6 en France, 360 places. Soit on les place dans le quartier mineur d'un établissement qui est un centre de détention, une maison d'arrêt. Donc, il y en a à Fleury-Mérogis, par exemple, en région parisienne, assez près d'ici. 750 places disponibles. Ouais. Information importante, c'est qu'il n'y a pas de surpopulation dans ces quartiers pour mineurs. Ouais. Et là, bien, ils vont continuer leur vie d'enfants de 12 ans, avec ce qui pèse les charges de 13 ans, les charges lourdes qui pèsent sur leurs épaules. C'est-à-dire qu'ils sont pris en charge par d'abord l'administration pénitentiaire, qui s'occupe de leur surveillance, de leur encadrement dans la prison. Ensuite, la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, qui s'occupe de leur délivrer des soins, le suivi psychologique, parce que bien voilà, il faut suivre ses enfants. Et puis, l'éducation nationale, parce que l'école est obligatoire en France jusqu'à l'âge de 16 ans. Oui. Et même s'ils sont placés en détention à l'âge de 13 ans, eh bien, ils doivent suivre des cours. Donc, il y a des enseignants qui vont les recevoir là-bas et qui vont leur donner des cours.
En dépit de la fameuse excuse de minorité, est-ce qu'ils risquent une très lourde peine?
Oui, alors la peine encourue pour un viol aggravé, c'est 20 ans. L'excuse de minorité fait que toutes les peines sont divisées par deux, donc oui. 10 ans pour eux. Maintenant, il y a des éléments, si le viol est précédé, accompagné, suivi de propos, par exemple antisémites, atteinte à l'honneur, à la considération, ou à appartenance à une prétendue race, ethnie, eh bien, c'est une circonstance aggravante. Cette peine, initialement de 20 ans pour un adulte, est portée à 30 ans. Oui. Donc, 30 ans divisé par deux, pour eux, c'est 15 ans. Une fois, eux, ils n'ont que 13 ans. Une fois, l'excuse de minorité n'a pas été accordée à un garçon qui avait 17 ans. Donc, entre 16 et 18 ans, cette excuse de minorité peut sauter. C'est le garçon qui avait tué cette jeune fille au lycée du Chambon-sur-Lignon, qui était condamné. Il avait 17 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais cette excuse de minorité peut sauter entre 16 et 18 ans, pas à présent.
Toute dernière question, et je vous libère, Dominique. Sait-on si la jeune fille de 12 ans va être entendue ou réentendue par les enquêteurs?
Alors, elle a été entendue d'abord samedi après-midi, en fin d'après-midi dans la soirée, par des policiers de Puteau qui sont venus à son domicile et qui lui ont posé quelques questions, donc questions qui nous permettent d'avoir les éléments dont on vient de vous parler. La troisième page du procès-verbal des policiers, qui en compte 5, est terrible parce qu'elle raconte les faits et je vous assure que ça n'est pas seulement un viol, c'est bien, bien plus horrible que ça. Et donc oui, elle sera réentendue obligatoirement. Son audition va être enregistrée, c'est pour ça qu'on enregistre les auditions, pour éviter aux enfants d'avoir à les répéter. Mmh. Ensuite, les psychologues essaieront de l'aider à oublier ce qu'elle a vécu, mais son audition sera enregistrée Et le jour où un procès aura lieu, eh bien, son audition sera diffusée. C'est une, l'audition filmée sera diffusée. Oui. Là encore, pour lui éviter, dans 2 ans, dans 3 ans, d'avoir à revivre, à répéter. Ça sera une audience à huis clos, devant une cour d'assises des mineurs, à répéter, revivre ce qu'elle va raconter cette fois-ci, une seule fois, devant une caméra.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Dominique Rizet. Élie Kortchia, Yonatan Arfi, président du CRIF, déclarait ce matin que cette affaire était un révélateur du climat délétère qui pèse aujourd'hui sur beaucoup de Français juifs. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Bien sûr, un révélateur et je rajouterais même un marqueur supplémentaire, un marqueur important des actes antisémites dans notre pays au cours de ces derniers mois et même, je dirais, depuis ces dernières années. On avait vu des enfants se faire assassiner dans une cour d'école et devant l'entrée d'une école, c'était à Ozar Hatorah, par un terroriste. On a vu des dames, Madame Halimi, se faire défenestrer, tuer dans des conditions terribles. Je pense aussi à Madame Knoll, Mireille Knoll, qui a été tuée dans des conditions terribles. Là, nous sommes arrivés... Bien sûr, Ilan Halimi aussi, en 2006, je parlais de ces dernières années, mais dès 2006, on a effectivement l'affaire Ilan Halimi, qui est séquestrée, qui donc ensuite est torturée parce que juif, par ce gang des barbares qui pensait pouvoir récupérer de l'argent et demander une rançon alors qu'Ilan n'avait quasiment rien. Là, on est un nouveau marqueur, une enfant de 12 ans dans notre pays en 2024, qui se retrouve par d'autres enfants de 12 et 13 ans, des adolescents, qui se retrouvent séquestrés, violés, insultés, dans des conditions horribles, filmés par des enfants qui sont fiers de ce qu'ils font et qui la filment dans des scènes horribles. Vous avez raison de dire que la page où elle raconte les choses est tellement horrible qu'on ne va pas donner tous les détails, mais on en est là dans notre pays avec un antisémitisme désinhibé, dans un âge très jeune, et en même temps, il faut quand même le dire, avec un antisionisme, parce que entendre des enfants qui font ça en la traitant de sale juive et en essayant de légitimer ce qu'ils sont en train de faire, des violences sexuelles criminelles, en parlant de Palestine et d'Israël, ça fait froid dans le dos.
On va bien entendu aborder ces questions. Selon un sondage IFOP du mois de mai dernier, l'école constitue le premier lieu d'exposition des actes antisémites dans notre pays. En 2024, 62% des victimes indiquent avoir fait l'objet d'injures, de menaces ou d'actes de violence physique dans un établissement scolaire. Jean-Yves Camus, que l'on parle des auteurs ou des victimes, l'antisémitisme touche une population, on l'a bien compris maintenant, donc aussi extrêmement jeune.
Oui, pourquoi croyez-vous qu'un grand nombre de familles juives ont décidé à un moment donné, à partir du début des années 2000, de scolariser leurs enfants dans des établissements confessionnels, sinon parce que ça n'était plus possible de les scolariser dans le public. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un quartier où j'ai pu tenir jusqu'au bout la ligne consistant à envoyer mes enfants à l'école publique, alors même que nous sommes une famille pratiquante. Mais ça n'a pas été simple. Et honnêtement, dans d'autres quartiers, à simplement 500 mètres de là, ça aurait été, disons-le clairement, impossible.
Ma question est, tout le monde sait que tout cela existe, évidemment, et fait partie, hélas, de la vie quotidienne dans notre pays, mais est-ce que vous avez la perception d'un phénomène qui augmente ?
Ah mais j'ai pas la perception.
Et notamment chez les plus jeunes.
J'ai la certitude d'un phénomène qui augmente parce que je crois aux statistiques qui sont élaborées par les autorités en liaison avec le service de protection de la communauté juive et qui sont, il faut toujours le répéter, des statistiques inférieures à la réalité. Puisque
pourquoi ?
Parce qu'on ne peut prendre en compte tout simplement que les faits qui sont déclarés.
Déclarés.
Or il y a naturellement des gens qui ne vont pas porter plainte, des gens qui continuent à déposer des mains courantes, alors qu'on sait très très bien qu'une main courante ne sert à rien. Il y a une incitation régulière et des pouvoirs publics et des instances communautaires pour dire à ces gens, à chaque fois que vous êtes victime, ne serait-ce que d'une insulte, il faut effectivement le signaler pour que cela puisse être comptabilisé dans les chiffres. On peut comprendre aussi qu'il y a un certain nombre de gens qui s'y refusent.
Bien sûr. Céline Calvez, depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas, les actes racistes et antisémites ont donc fortement augmenté dans les établissements scolaires et sont observés dès l'école primaire. J'ai bien dit dès l'école primaire. Comment les enseignants peuvent agir ? Est-ce qu'ils ont des outils, selon vous, à disposition ?
Les outils à disposition des enseignants, moi j'ai pu le voir mis en place auprès des plus jeunes, puisque en tant que députée membre de la commission des affaires culturelles, j'ai pu me rendre ces dernières années auprès des établissements, notamment des collèges, qui font un véritable travail de Sensibilisation, prévention, dire ce qui est interdit, ce qui est un délit, ce qui est un crime. Et ça, on le fait aussi bien pour lutter contre les violences sexuelles, pour revenir sur le viol de Courbevoie, mais aussi pour dire que l'antisémitisme existe encore et est fortement à condamner. Et qu'on a forcément à pouvoir sensibiliser les plus jeunes. C'est un défi. Je crois que le rôle des médias aussi, de pouvoir parler de ce qu'est l'antisémitisme et de ce que ça révèle, et de mettre clairement les mots sur des faits qui sont une augmentation de l'ordre de 300% au premier trimestre de cette année. Effectivement, depuis le 7 octobre, on a l'impression qu'il y a une libération. Il y a aussi une instrumentalisation. Vous savez que les injurances et les ingérences étrangères se sont posées en utilisant l'antisémitisme, notamment en inscrivant sur les murs de Paris cette croix, la Magdalene David. On a vu que c'était des forces russes qui avaient été à l'origine de ça. On utilise l'antisémitisme pour briser la société. Et pour moi, il est important de révéler que dans ce débat politique, tout n'est pas forcément clairement établi par les uns ou par les autres. Et l'antisémitisme, on devrait tous être derrière cette lutte, aussi bien dans les écoles que sur les plateaux des débats politiques, que dans l'ensemble de la rue. Au sein de ma circonscription, il y a une forte communauté juive. Elle a été terrifiée le 7 octobre. Les parents ne voulaient plus envoyer leurs enfants à l'école, et que ce soit des écoles publiques ou des écoles juives. Donc en fait, la peur a été là. Et aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un renforcement des moyens de police et de justice pour faire qu'il ne soit plus possible de tolérer ça. J'en viendrai par un dernier point. On a parlé des victimes et on a parlé des auteurs. Moi, je veux appeler les témoins. Parce que les témoins, ça peut être nous tous. Et en fait, il faut qu'on puisse recueillir la parole des victimes, les pousser à aller porter plainte. Et les témoins, on est tous concernés par l'antisémitisme, qu'on soit juif ou pas juif, en fait. On a, dans notre histoire, connu tellement de drames, et encore plus récemment, qu'on ne peut pas se taire. Et donc, témoins, ça, on l'a tous. Il faut pouvoir alerter.
Élie Kortchia, quand les injures antisémites sont entendues dans l'école primaire, ça veut dire que les enfants l'entendent chez eux. Nous sommes bien d'accord. Cette vague a-t-elle un lien, vous avez commencé à l'évoquer, et est-elle une justification pour certains antisémites français dans ce qui vient de se passer après l'attaque subie par Israël et l'intervention militaire à Gaza? Vous avez commencé à aborder cette question il y a quelques instants. C'est utilisé?
Mais bien sûr, je l'ai utilisé parce que c'est dans le... On sait que c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas là aussi des suppositions. On sait qu'il y a eu des insultes antisémites, donc on va dire... purement antisémite, sale juive, donc on l'attaque sur sa religion, cet enfant de 12 ans, mais pendant qu'on commet des actes horribles sur elle, on vient en plus l'attaquer en parlant d'Israël et en parlant de la Palestine. Une enfant qui habite à Courbevoie alors qu'on est dans le quartier de la Défense et qu'elle n'a strictement, évidemment qu'elle ne connaît rien à ce qui se passe à 4000 km d'ici, mais on vient légitimer les atrocités, les crimes qui sont commis sur elle en ce moment en parlant de la Palestine. Si ce n'est la répétition par des enfants, par des jeunes, par des enfants de 12 à 13 ans de ce qu'ils ont entendu chez les adultes, et évidemment avec un matraquage qu'il y a eu au cours de ces derniers mois notamment, et on sait très bien que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme, sans doute une des plus virulentes actuellement dans la période que nous connaissons, et la définition de l'IHRA qui a été adoptée par la France, mais qui malheureusement est adoptée sur les principes, mais dans l'action concrète on ne voit pas son application, et bien on voit bien qu'ici antisémitisme et antisionisme sont les deux mamelles de la haine qui a produit notamment ce viol et ces violences et ces injures antisémites.
Alors ce drame bouleverse aussi la campagne législative, et un parti est montré du doigt, en l'occurrence LFI, souvent désigné comme propagandiste de la montée de l'antisémitisme, Laurent Neumann. Hier, lors du rassemblement organisé à Paris, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, on l'a entendu d'ailleurs sur notre antenne, Jean-Luc Mélenchon a été pris pour cible au cri de Mélenchon en prison. Le leader de la France insoumise est-il devenu un acteur désigné de l'antisémitisme?
Oui, sans doute à cause des outrances que lui-même a pu tenir ou que certains de ses amis ont pu tenir sur le conflit au Proche-Orient, sous couvert d'ailleurs d'antisionisme. Est-ce qu'on a le droit dans ce pays de critiquer la politique de Benjamin Netanyahou?
Oui.
Par contre, lorsque vous commencez à manifester et que vous brandissez un certain nombre de drapeaux, où par exemple on peut voir de la mer au Jourdain, ce qui signifie la suppression même de l'État d'Israël.
Absolument.
Lorsque vous entendez Israël assassin, Raphaël Glucksmann complice, tout ça est assez clair. Et Jean-Luc Mélenchon et certains de ses proches ont pu être ambigus, au point que, au point que certaines figures, des figures emblématiques de la communauté juive, évidemment, je pense à Serge Klarsfeld, lorsqu'il se retrouve à dire bah, « moi, entre le RN et LFI, je choisirais le RN », ce qui est intéressant, c'est la remarque de Jean-Luc Mélenchon après ces propos-là. Il parle de naufrage moral de la part de Serge Klarsfeld, sans jamais se demander à aucun moment comment il est possible qu'on en soit arrivé là. Comment, pardon d'utiliser ce mot, mais comment le mistigris de l'antisémitisme qui était collé au Rassemblement national et naguère au Front national, comment il a pu, en quelques mois, passer à une autre formation politique.
C'est une des questions qu'on doit se poser ce
qui
soir.
Qui plus est, issu de la gauche. La gauche qui a une matrice antiraciste. Donc, c'est quelque chose s'est clairement passé. Et à aucun moment, moi, c'est ça qui me frappe, à aucun moment, je n'entends la moindre autocritique. Au minimum, les responsables politiques qui sont accusés d'une telle infamie, et l'accusation est d'une gravité absolue, absolue. Comment se fait-il qu'à aucun moment, on ne s'interroge sur comment on a pu en arriver là? À quel moment j'ai pu commettre une erreur, une ambiguïté, pour qu'on m'accole à moi? Et Jean-Luc Mélenchon répète que toute sa carrière, toute sa vie est marquée par la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques mois pour qu'on lui colle à lui et aux insoumis, pas à tous, hein, je précise, cette étiquette-là?
Alors justement, pourquoi la France insoumise est-elle désormais perçue, notamment comme un parti antisémite? C'est l'heure de notre séquence Les éclaireurs. Bonsoir Karine de Ménonville. Un fossé s'est clairement creusé entre la France insoumise et les Français de confession juive.
Et un chiffre spectaculaire révèle l'ampleur de ce phénomène. Selon une enquête IFOP toute récente, 92% des Français de confession juive estiment que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon fait monter l'antisémitisme. À titre de comparaison, dans cette enquête, le Rassemblement national arrive en troisième place avec 49%, derrière Europe Écologie Les Verts. Donc 92% pour la France insoumise. Et selon la même enquête, il serait 57% des Français de confession juive à vouloir quitter la France si en 2027, à la présidentielle, c'était un candidat de la France insoumise qui était élu contre 30% pour le Rassemblement national. Alors une peur qui est née de nombreuses déclarations et de nombreuses décisions. Accusé de se compromettre loin du pacte républicain par le président du CRIF, Jean-Luc Mélenchon reproche au CRIF d'être d'extrême droite. Ça, c'était il y a quasiment un an, en juillet 2023. Voici ce qu'il a tweeté à l'époque, Jean-Luc Mélenchon. Le président du CRIF utilise la cérémonie à la mémoire des victimes de la rafle des Juifs par la police française pour me prendre à partie. Abject, l'extrême droite n'a plus de limite. Ça, c'était il y a un an. Et ça s'intensifie, ça ne cesse pas après le 7 octobre, avec comme point de rupture le refus de Jean-Luc Mélenchon et de LFI de participer à cette grande marche civique contre l'antisémitisme appelée par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée. S'en suivront le soutien, la légitimation parfois des actions du Hamas, la députée Danielle Obono évoquant un mouvement de résistance. Et voilà ce qui explique ce sondage, voilà ce qui explique la prise de position de Serge Klarsfeld, historien, avocat, grand défenseur de la cause des déportés juifs de France, qui annonce qu'en cas de duel gauche-Rassemblement national, il votera Rassemblement national. Et voici ce que résume très bien le fils de Mireille Knoll, cette rescapée de la Shoah, victime d'un meurtre antisémite. Écoutez.
Malheureusement, moi, je trouve que toutes les mères, tous les pères qui ont des enfants doivent réagir. Et on doit réagir contre le racisme et l'antisémitisme. Et je dois dire, je rejoins un peu notre ami Klarsfeld, et je pense qu'aujourd'hui, le grand danger, c'est malheureusement le LFI. Et je ne comprends même pas qu'il y ait encore des gens qui ont envie de voter pour ce parti qui montre sa haine à chaque moment. À chaque moment, et on ne dit rien, et on ne fait rien contre eux.
Bon, ce qui est émouvant dans cette prise de parole en plus, c'est qu'on sent qu'il a du mal ou il n'a peut-être pas envie de le dire aussi brutalement et que c'est déjà un trajet intérieur que de dénoncer pour lui une partie de la gauche française dans ses propos. Comment réagissez-vous à ce que nous dit M. Knoll?
Écoutez, moi, plutôt que de réagir à ce que vient de dire Daniel Knoll, je voudrais vous dire quelque chose sur ce débat. Depuis le début de ce débat, il y a des choses qu'on ne dit pas. J'ai entendu parler de drame. Il faut parler de crime. J'ai entendu parler d'ambiguïté. Quand Jean-Luc Mélenchon dit l'antisémitisme est résiduel en France, ça n'est pas une ambiguïté, c'est une fausseté. C'est une négation d'une réalité prouvée par les chiffres. Ensuite, on vient de nous dire, il y a de nombreux juifs qui souhaitent quitter la France en cas de victoire de l'LFI. Moi, je ne quitterai pas la France parce que je suis chez moi. Il faut que ce soit bien clair. Que le départ soit un choix idéologique. Le sionisme est une idéologie. Que par sionisme, on décide de faire son allégat et de s'installer en Israël. C'est une chose. Mais je ne partirai pas, contraint et forcé, je ne partirai pas parce que j'ai peur. Je veux bien partir pour adhérer à un projet idéologique qui est celui de monter en Israël, mais je ne veux pas partir parce que j'ai à mes trousses un parti politique qui me met en situation de devoir dégager.
Très bien, mais vous ne pouvez pas empêcher des membres de la communauté juive de dire à l'IFOP, quand on les interroge, ce qu'ils ressentent.
Tout à fait. Mais il y a une autre voie. Et cette voie, c'est effectivement de se mobiliser et de combattre. De combattre celles et ceux, aujourd'hui, qui, effectivement, ne sont plus dans l'ambiguïté. Hein. Je suis désolé, mais on a dépassé le cadre de l'ambiguïté. Le soutien à un mouvement comme le Hamas, dont on élude, dont Mme Obono élude, et le projet théocratique, et la nature terroriste, c'est quand même autre chose qu'une ambiguïté. C'est une volonté claire, assumée, de dire ce mouvement doit réaliser son projet politique, et ce projet politique, il est clair, c'est l'éradication de l'État d'Israël.
Il faut s'arrêter sur ce chiffre. 92% des Français juifs estiment que la France insoumise contribue à la montée de l'antisémitisme en France. 92%. Et dans la population générale, c'est plus d'un Français sur deux, 53%. Qu'est-ce que ça vous inspire, François Calfon, et comment vivez-vous ça ?
Écoutez, déjà, moi, la résurgence de l'antisémitisme, en tant que militant de gauche, en tant que citoyen, je l'ai vu dans les livres, dans ma génération à moi. Et maintenant, je la vois devant moi. Cet antisémitisme, je croyais que c'était quelque chose, une bête immonde qui ne renaîtrait pas. Je la vois, y compris puisque vous me donnez l'occasion de parler, je vais répondre à votre question, bien sûr. Mais je tiens à dire ici que j'ai trouvé particulièrement ignoble dans tout ce qu'elle dit, cette affaire du viol d'une gamine, parce que ça rentre en résonance chez des très jeunes individus avec les viols de masse qui ont été pratiqués lors du pogrom du 7 octobre. Donc ça, c'est... Je vais vous répondre, mais je tiens à dire les choses. Deuxième chose, moi je suis représentant d'un parti politique qui est impeccable sur la question de l'antisémitisme, qui a toujours lutté contre et qui n'a jamais été ambigu avant le 7 octobre, pendant le 7 octobre et après le 7 octobre.
Mais associé à la France insoumise dans le nouveau Front populaire.
Quand je dis que le papier jauni des livres d'histoire rejaillit à mes yeux, c'est qu'il a toujours existé, à l'affaire Dreyfus, un antisémitisme d'extrême droite, oui. Et le Rassemblement national a exclu deux de ses candidats. Donc j'aimerais bien aussi qu'on parle de cet antisémitisme dont l'un de vos collègues disait qu'il était résiduel. Moi j'estime qu'il est bien présent. Et en plus, la matrice de votre parti politique, parce que je ne suis pas dans la
Vous déplacez le débat, je vous interroge sur la France insoumise. Écoutez, ces questions que vous soulevez sont légitimes. Nous les abordons tous les jours.
Ça fait une demi-heure qu'on parle.
Vous êtes en train de vous laver les mains.
Vous ne souhaitez pas entendre ma réponse.
J'aimerais surtout que vous répondiez à ma question, M. Calfon.
Mais parce que la réponse à votre question, c'est pourquoi il y a une alliance des gauches incluant les différentes forces de gauche. Oui. Il y a un risque de l'extrême droite.
Dont celles qui sont ouvertement antisémites.
Qui est toujours en costume cravate, potentiellement antisémites, ils ont exclu deux de leurs candidats, et qui est ouvertement raciste et xénophobe, voulant installer la préférence nationale en France. Maintenant, je vous réponds sur la gauche.
Ils sont exclus, que je sache.
Non, mais d'accord, mais ils étaient bien sur les listes. Ils étaient bien sur les listes.
Ah, mais absolument.
Et à chaque fois qu'il y a un candidat de gauche qui a des questions, ça fait les têtes de liste des journaux, à juste titre. Mais j'aimerais bien que tout soit posé. Ensuite, il y a toujours eu un antisémitisme d'extrême gauche. Et moi, je ne le mets pas de côté. Quand j'ai fait campagne avec Raphaël Glucksmann, j'ai subi moi-même des attaques sur la base de mon patronyme.
J'en doute pas.
On m'a traité de sioniste, d'accord ? Et c'est bien la première fois que sur la seule base de mon patronyme, on me donne des opinions supposées qui ne sont pas les miennes. Donc si vous voulez, je le vis dans une meurtrissure personnelle. Ensuite, vous prenez d'un bloc, oui, il y a des gens, je pense notamment à un candidat, qui est candidat contre Mme Garrido, qui a été investi par la France insoumise, et qui lui-même, il y a une vidéo qui circule, qui a fait l'objet d'ailleurs de commentaires, qui lui-même désigne les noms, dont le mien, dont celui de M. Glucksmann, dont celui de Mme Rafovitz, comme étant des sionistes,
sur la base unique, oui, parce que mes positions ont toujours été très claires sur le conflit israélo-palestinien, eh bien, je peux vous dire que la lucidité, puisque vous, quelque part, vous anticipiez sur une pseudo-langue de bois, une forme d'excuse de ma part, je serais électeur dans cette circonscription, ma voix n'irait pas à cette personne-là, de manière très claire. Et je dis que les citoyens, quand ils ont affaire, parce que c'est 577 élections, quand ils ont affaire à des gens qui ne sont pas impeccables sur ces questions-là, ils peuvent choisir.
Ensuite, j'aimerais que vous répondiez à ma question qui était: comment vivez-vous le fait d'être associé à un parti considéré par la majorité des Français comme favorisant l'antisémitisme ?
Vous savez, le principe de majorité...
Soit on se trompe et vous nous le dites, soit vous...
Le principe de majorité et de minorité, voilà. J'ai dit pourquoi nous étions dans cette alliance, parce que pour moi, le risque majeur, c'est l'extrême droite, dont les tréfonds, M. Châtillon, père et fils, sont de nature antisémite. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a des problèmes ? Oui, j'ai dit qu'il y avait... j'ai dit qu'il y avait un certain nombre... Mais je tiens à dire que je ne pense pas que M. Ruffin, qui est une personnalité majeure de la France insoumise, soit antisémite, ou alors dites-le-moi. Je ne pense pas que Mme Autain soit antisémite. Je ne pense pas que Mme Garrido soit antisémite. Je ne pense pas que M. Corbière soit antisémite. Et quant à un certain nombre de déclarations qui ont été faites, eh bien, je pense... important, et c'est ça qui est le plus important, important, un conflit, c'est pas la première fois qu'il y a un conflit israélo-palestinien, mais jusque-là...
J'aimerais bien qu'on ne refasse pas toute l'histoire et qu'on essaye de répondre à mes questions, s'il vous plaît. Bon, bah, je suis désolé, mais...
C'était ma réponse,
je vous ai entendu. J'ai pas répondu. Alexandre Nikolic doit vous répondre.
Alors, déjà, sur un point, vous avez parlé d'un de nos candidats qu'on a exclu, il s'appelle Joseph Martin, il avait dit exactement le jour de la mort de Robert Faurisson, qui osait remettre en cause les Chamoyas, le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. En fait, il s'avère que ce monsieur était plutôt pro-israélien, et la presse ressort...
C'est un très mauvais jeu de
mots. Non, mais attendez. Et on l'a exclu. Vous savez pourquoi ? Parce que s'il y a la moindre ambiguïté sur l'interprétation, quand quelqu'un dit quelque chose qui peut être jugé antisémite, on le vire. C'est pas le cas, par exemple, chez vous, quand Philippe Poutou est investi dans votre alliance, alors que le lendemain des attentats du 7 octobre, il dit que tous les moyens peuvent être utilisés par les Palestiniens dans cet acte de résistance. Et vous, vous êtes dans cette alliance-là. Je vais vous dire pourquoi on est intransigeant avec toute ambiguïté par rapport à ça. L'année dernière, vous savez, il y a eu 1600 actes antisémites. Dans ces 1600 actes antisémites, il y a eu 85 agressions physiques. Ça veut dire que tous les 4 jours en France, il y a un juif qui se fait agresser physiquement parce qu'il est juif. Là, ce qui s'est passé à Courbevoie, évidemment, je le dis avec émotion avec cet enfant, vous avez entendu exactement comment ça s'est passé, elle devait dissimuler qu'elle était juive. On en est là en France aujourd'hui. Pourquoi on en est là ? Vous savez, moi, je parlais de l'école. Je me souviens que quand, dans un lycée populaire, la professeure avait voulu nous montrer le film « La vie est belle », tout de suite, il y avait eu... des élèves qui s'étaient manifestés en disant c'est un film de feu, vous savez ce film Alberto Benigni, c'est un film de feu, vous vive la Palestine, et voilà. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire,
certains y ont refusé de voir le film, oui, et d'assister à la diffusion.
Il y a un antisémitisme latent en France qui a été importé, je le dis, par une immigration. Il y a un certain... Oui. Attendez, laissez-moi parler, c'est un sujet important.
Je ne coupe pas les racismes. Je ne coupe pas les racismes. Je condamne toutes les formes de racisme, y compris l'antisémitisme.
Écoutez-moi, je vous parle de l'antisémitisme réel. Écoutez, monsieur Nicolet, merci.
De France aujourd'hui. Je disais, il y a une partie, une infime partie, aujourd'hui, je pense vraiment, de gens qui se revendiquent et qui se ressentent, peut-être d'une religion, par exemple de l'islam, et qui, par solidarité avec la Palestine, aujourd'hui, rentrent dans cet antisémitisme et en veulent à tous les juifs parce qu'ils sont contre Israël. Et ils le manifestent clairement. Si vous n'entendez pas ça, c'est que vous n'êtes pas en phase avec la réalité. C'est ce qu'ils disent. Et aujourd'hui, il y a des gens, des responsables politiques, comme Jean-Luc Mélenchon, qui essaie d'invisibiliser cet antisémitisme en disant qu'il est résiduel, comme ceux qui ont relativisé les attentats du 7 octobre, comme ceux qui instrumentalisent encore plus ce conflit en tapant systématiquement sur Israël et qui enflamment le débat et qui justifient et qui donnent une justification à ces gens qui ont déjà un relent profond d'anti-sionisme, antisémitisme, et qui, du coup, passent à l'acte beaucoup plus. Et aujourd'hui, sincèrement, c'est pas étonnant qu'on ait ce sondage. Et d'ailleurs, vous voyez une différence entre les personnes juives et les personnes non juives. C'est 92% qui jugent que c'est LFI qui fait monter aujourd'hui l'antisémitisme. C'est parce qu'ils le vivent. Ils savent ce qui les menace aujourd'hui. Et aujourd'hui, je le dis vraiment. Oui, vous êtes dangereux parce qu'il y a beaucoup de candidats chez vous qui sont très ambigus avec cette question. Et oui, il y a une menace, franchement, de la paix civile en France, une menace qui pèse sur les juifs avec un repli sur soi communautaire de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est je trouve ça étonnant que vous ne soyez pas plus clair en disant non, je ne suis pas d'accord avec cette alliance du Front populaire, avec des candidats qui clairement aujourd'hui...
La question est simple, je veux bien une réponse rapide parce que je voudrais vous faire entendre le ministre de la Santé qui s'exprimait ce matin.
Bah, écoutez, quand on condamne l'antisémitisme en désignant ce que vous venez de faire, les musulmans comme finalement les auteurs... Gilles l'a fait. Les musulmans, une religion auteur de l'antisémitisme, bah, si vous voulez, moi je ne choisis pas, c'est bien pour ça qu'on se bat contre vous. Je ne choisis pas, je
lutte contre le racisme au-dessus de tout.
Et vous venez de tenir un propos, vous parlez d'essentialisation.
Oui,
je me bats contre le racisme,
vous dites
contre
l'antisémitisme. Alors que j'ai dit une petite partie.
Mais si, vous
êtes... Monsieur Calfon, vous mentez sur ce que disent nos
collègues. Ensuite, pour répondre très clairement, vous allez dire que je ne réponds pas à votre question. Sur la charte, bien sûr, mais vous avez bien raison, vous êtes dans votre rôle. Sur l'accord que nous avons qualifié les attaques du... Et c'est à la demande des socialistes, on ne va pas se mentir.
Ah bah ça, j'ai pas de doute là-dessus, oui.
Nous avons demandé à chacun de qualifier les attaques du 7 octobre de terroristes. Si M. Poutou considère encore... Vous faites votre travail de journaliste, ou Mme Obono ou d'autres qui ont dit le contraire... dans des interviews, vous disent « Eh bien non, finalement, c'est de la résistance. Eh bien, moi, je serai le premier, vous m'entendez, vous pouvez prendre à témoin, je serai le premier à demander... »
Vous venez de le dire.
Vous acceptez cette alliance avec LFI. C'est pas n'importe qui chez LFI qui dit ça. Il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils étaient proches d'Ouria.
Ils ont tous signé, ça les engage.
Les Blancs, les Juifs et nous, monsieur.
Alexandre Nicolini.
Moi, je n'ai tenu aucun
propos. Il faut qu'on avance.
Vous en avez
tenu. Et vous êtes nombreux à vouloir interroger.
Bien sûr, sur la nature profonde, l'essentialisation des musulmans.
Non seulement je n'ai pas essentialisé, mais en plus, vous confondez religiosité, ethnie, vous confondez tout dans ce débat. Et j'ai dit une partie de ceux qui se revendiquent, qui placent leur religion.
Moi, je me bats contre tous les racismes.
S'il vous plaît. Pour définir leur identité et avec une solidarité religieuse. Et c'est une petite partie.
On ne va pas se lancer dans des déclarations morales. Vous êtes sur ce plateau, vous débattez, et c'est tout à fait normal. Ce matin, et je vous redonne la parole ensuite, l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, s'exprimait sur France Info. Pour lui, une partie de la France insoumise a en effet contribué à dédiaboliser le Rassemblement national. Écoutez.
Je pense que une partie de la France insoumise a offert ce brevet de virginité sur la lutte contre l'antisémitisme au Rassemblement national. Et donc, je pense que c'est une partie.
Mais vous êtes associé à eux aujourd'hui.
Oui, et dans les 10 points, dans les 10 engagements qui sont ceux du nouveau Front populaire, il n'y a pas d'ambiguïté sur la lutte contre l'antisémitisme.
Vous partagez cette analyse, Jean-Yves Camus?
Écoutez, moi je vais vous répondre de la façon suivante. J'ai toujours voté à gauche. C'est très clair. J'ai connu, à l'époque du Front national, un certain nombre de cadres, de responsables, qui avaient, pendant la Seconde Guerre mondiale, collaboré, ou étaient vichistes, ils ne s'en cachaient pas. Nous en avons parlé, je les ai interviewés, dans le cadre de travaux universitaires. Le dernier est mort en 2012. Quand je vais prier, le samedi après-midi, dans une synagogue qui est à 100 mètres de la place de la Nation, les gens qui sont sur cette place et qui scandent des slogans antisémites, ce ne sont pas les descendants de ces gens-là. Je suis navré. Et à un moment donné, c'est pour quelqu'un qui, encore une fois, se réclame de la gauche, très profondément troublant. Parce que qu'il existe encore des antisémites à l'extrême droite, personne ne saurait nier. Mais la masse sur cette place, la masse qui entonne des slogans à la gloire de Hamas, les porteurs de pancartes qui mettent en équivalence ce qui se passe à Gaza et le camp d'Auschwitz, ce ne sont pas des descendants des Waffen-SS tout de même. Il va falloir à un moment donné descendre sur terre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, dans une fraction de la population, qui d'ailleurs ne se réclame pas forcément de l'islam, c'est un problème culturel davantage que religieux, des gens qui aujourd'hui ont une détestation ontologique du juif et qui voient dans tout juif un représentant d'Israël. Voilà, c'est ça la réalité d'aujourd'hui.
Vous voulez réagir?
Je vais compléter ce que dit Jean-Yves Camus, je pense qu'il a raison.
Oui,
je pense qu'en fait, on doit changer de logiciel. On doit comprendre qu'il y a des choses qui ont changé, ne serait-ce que dans ces 20-30 dernières années, et notamment depuis le 7 octobre. On a passé notre temps à dire qu'il y a un avant et après le 7 octobre, mais on le voit bien. On le voit avec ces marqueurs aujourd'hui de l'antisémitisme. Moi, ce que je regrette, et je le dis vraiment à François Calfon, dans ma génération, on s'est construit contre le Front National.
C'est vrai.
Et on s'est construit contre le Front National, pourquoi ? Parce que c'est Jean-Marie Le Pen,
oui.
Dont il faudra peut-être juste rappeler
à cause des racines, non.
Qu'il était antisémite, hein, Jean-Marie Le Pen, s'il avait oublié qu'il
le
était antisémite. Il faudra juste lui dire qu'il était antisémite, Jean-Marie Le Pen. Le détail de l'histoire sur les chambres à gaz, du rafour crématoire et j'en passe. On s'est construit contre cet extrémisme. Mais il faut aussi rappeler que dans les années 90-2000, il y avait un cordon sanitaire entre la droite représentée par Jacques Chirac à l'époque, ou ensuite Nicolas Sarkozy, avec les idées qui étaient prônées par le Front National, et notamment à l'époque par Jean-Marie Le Pen. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que quand on a un parti en 2024 qui a fait l'apologie du terrorisme, qui a nié, banalisé, méprisé, voire même a fait du négationnisme sur l'après 7 octobre, comme l'a fait LFI, je pense qu'il aurait été de l'honneur de la gauche que vous représentez de dire on ne s'allie pas avec un parti comme le LFI. Et je vous le dis, en tant que citoyen français, quand je vois cette alliance, je trouve qu'elle n'est pas normale. Et j'aurais aimé que vous fassiez comme Jérôme Guedj, votre collègue, qui a dit « Moi, je me présenterai à cette élection législative, mais je ne le ferai pas en m'alliant pour des calculs de voix électoralistes avec un parti comme LFI. » Parce qu'il faut le reconnaître, depuis le 7 octobre, le seul parti dans notre pays qui a dérogé à ce qui normalement aurait dû être l'arc républicain, c'est LFI. Et c'est cette alliance qui aujourd'hui est insupportable pour beaucoup de nos concitoyens, pas seulement, je pense, pour les Français juifs, mais aussi principalement pour les Français juifs qui ont vu ce parti alimenter, mettre l'huile sur le feu et venir aujourd'hui, quand il y a un drame où on viole une enfant de 12 ans en parlant notamment d'Israël et de Palestine, venir nous dire c'est horrible, on est horrifié. Non, à un moment donné, il faut assumer ses responsabilités et cette alliance avec LFI, je crois qu'elle aura une importance dans les mois qui viennent.
Alors, peut-être.
Merci.
Je viens quand même réagir parce qu'on a eu la démonstration qu'à l'extrême gauche et à l'extrême droite, il y a des ambiguïtés et des compromissions, qu'effectivement, les actes et les dires des uns alimentent celles des autres. Et clairement, devant le défi de la lutte contre l'antisémitisme, il faut être beaucoup plus clair. Il faut être beaucoup plus clair. Et je suis représentante du Bloc central. Il n'y a aucune ambiguïté chez nous, pour lutter contre l'antisémitisme. On a eu la marche contre l'antisémitisme après quelques semaines.
Le président de la République n'était pas là, pardon de vous le dire. Et dans le premier signal de l'accord de la nation...
Alors, est-ce que je peux continuer, madame, monsieur, parce que je suis la seule femme sur ce plateau, mais je me fais interrompre.
Vous reprenez la parole.
Je reprends la parole pour dire que c'est à l'initiative de Yael Braun-Pivet et de Gérard Larcher qu'a été mis en place cette marche. Nous n'avons jamais été coupables de la moindre compromission. Nous avons toujours affirmé en dire et en acte qu'il fallait lutter contre l'antisémitisme.
Pour nous,
ce qui existe aujourd'hui à l'extrême droite, ici, ou à l'extrême gauche, est plein de dangers parce que ça s'auto-alimente et ça alimente l'antisémitisme. Donc il faut être clair sur ce combat, comme sur d'autres. Et aujourd'hui, que ça soit le Front populaire ou les alliances des LR avec le RN, c'est de la compromission. On a une opération de clarification dans ces élections. Eh bien, faisons cette clarification. Cette clarification, c'est le Bloc central. Le Bloc central, c'est le seul qui permet de pouvoir lutter contre. Je vais aller plus loin
avec vous, Laurent Neumann. Pardonnez-moi, c'est que pour Marine Le Pen, c'était assez inespéré qu'un parti politique lui vole la place du parti antisémite dans la place de la vie politique française. Elle a toujours été parfaitement claire et elle n'est pas l'héritière, en tout cas, de ce système de valeurs venant de son père. Néanmoins, ça mérite quand même quelques commentaires.
Oui, d'abord, sur l'image du Rassemblement national, je partage à 200% ce que vient de dire Jean-Yves Camus il y a un instant. Effectivement, l'extrême droite, incarnée par le Front National et Jean-Marie Le Pen, était antisémite.
Oui.
Et il n'y a plus guère que Jordan Bardella, je le répète, qui ne voit pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Mais c'est un fait. Deuxième chose, la dédiabolisation ou la normalisation du Rassemblement national a suivi beaucoup d'étapes. Ça commence en 2011, quand Marine Le Pen prend le pouvoir. Et sans remonter aussi loin, lorsque Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle de 2022, avec ses outrances personnelles identitaires, nécessairement, il recentre Marine Le Pen. Et les outrances de certains, parce que vous dites la France insoumise, je pense qu'il faut être précis et il faut dire certains.
Vous avez raison.
De la France. Eh oui, mais je sais que la nuance est parfois compliquée, mais c'est certaines personnalités au sein de la France insoumise qui, à leur tour, par leurs outrances, sur ce qu'il se passe au Proche-Orient, ce qu'il s'est passé le 7 octobre, puis la manière dont Israël a riposté. Ce sont ces outrances qui permettent à Marine Le Pen, effectivement, de rompre, sans qu'elle ait besoin de le dire, avec le passé de sa formation politique. Et donc, mais aujourd'hui...
Il faut qu'elle dise merci à Jean-Luc Mélenchon d'avoir contribué à ça.
Je n'irai pas jusque-là, mais en revanche, je crois que certains lui rendent des services sans le vouloir. Donc, en endossant le combat contre le Rassemblement national, il y a des prises de position qui, parfois, vous mettent en porte-à-faux. Je suis désolé de le dire. Mais, une fois que j'ai dit ça, pardon d'y introduire de la nuance, mais dire... Tous ceux qui sont membres de la France insoumise sont antisémites. Et par ricochet, ceux qui s'allient avec ce parti... Et
personne ne dit ça, en tout cas, dans cette émission. Mais,
Ah, pardon.
C'est ce qui a été dit.
J'entends quand même...
Non, on vous interroge, à vous, démocrates et responsables socialistes, sur vos alliances. D'accord, ça n'est pas la même chose. Et c'est normal, et d'ailleurs, vous le savez très bien.
On peut peut-être réagir à ce qui a été dit. J'étais directement interpellé, et j'ai trouvé l'interpellation... tout à fait légitime. Vous savez, il y a M. Klarsfeld qui dit qu'aujourd'hui, la lutte contre l'antisémitisme est incarnée par le Rassemblement national. Et il y a Mme Colinquin qui dit autre chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi des déportés eux-mêmes, des enfants de déportés eux-mêmes.
Pardon d'interrompre.
Je peux peut-être essayer de faire plus qu'une phrase.
Non, je vous interromps. Serge Klarsfeld n'a jamais dit que la lutte contre l'antisémitisme était incarnée par le Rassemblement national. Il a répondu à une question en disant qu'à titre personnel, il votait il votait pour Macron.
Voilà.
J'essaie. Mais que s'il avait le choix entre le Rassemblement national et LFI, il choisirait le Rassemblement national.
Comment vous assumez l'alliance ? Donc c'est ça la question qui est posée.
En effet.
Oui, mais d'accord. Mais donc on va répondre puisque le débat nous éclaire. Je ne choisis pas, je suis très 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 mobilisé contre l'antisémitisme, j'en suis moi-même victime, très clairement. Mais je ne choisis pas entre les différents racismes. Donc je considère, et ça c'est le débat historique, que l'extrême droite continue d'incarner un danger sur nos valeurs démocratiques, d'incarner un danger sur le racisme, et y compris, parce que vous dites on les exclut à tour de bras, et y compris, il y a aussi, dans l'extrême droite, d'ailleurs M. Darmanin demande la dissolution du GUL, un antisémitisme poli en costume cravate. Ça, c'est un. Deuxièmement, je suis d'accord avec Laurent Neumann, je vais essayer d'articuler un raisonnement. Je suis d'accord avec Laurent Neumann sur le fait que, oui, il y a des individus qui n'ont pas été nets, très clairement, et c'est un euphémisme, à la France insoumise. Mais ça n'est pas le cas pour tout le monde. La deuxième chose, parce que c'est ça, une charte, on y croit ou on n'y croit pas. Mais on a dit très clairement, nous luttons contre l'antisémitisme, et je n'ai pas vu, à part peut-être un député du 18e arrondissement, dont je ne veux pas donner le nom, parce que je trouve que c'est particulièrement indigne, mais hier, je n'ai vu que des condamnations très explicites de ce qui s'est passé. Et dans notre charte, il y a la lutte contre l'antisémitisme, et ceux qui, dans le cadre de ces alliances, devraient ou devaient finalement déraper là-dessus, je serai le premier à les dénoncer. J'ai parlé d'un candidat dans la circonscription de Mme Garrido. Et sur la question de la qualification terroriste des actes du Hamas, nous l'avons fait. La campagne va continuer. Vous allez interpeller les candidats. Si quelqu'un se met, pour nous socialistes, est une ligne rouge, en dehors de la ligne rouge, il n'aura plus rien à faire dans l'alliance du Front populaire.
Écoutons le Premier ministre Gabriel Attal.
On le voit, depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a repris une vigueur en France et ailleurs, dans d'autres pays également. Et moi, ma conviction, c'est que les responsables politiques doivent toujours placer des digues face à l'antisémitisme, au racisme, à l'homophobie. Or, je constate que ça n'est pas le cas dans toutes les familles politiques.
Lesquelles ?
Et je le déplore. Encore une fois, moi, j'ai vu les condamnations, évidemment, que les responsables politiques condamnent tous ce qui s'est passé à Courbevoie, et tant mieux, et je veux dire, on n'attendrait pas autre chose. Mais à un moment, les condamnations a posteriori, c'est important, mais en fait, c'est une lutte qui doit être permanente.
Jean-Yves Camus, les partis politiques doivent mettre des digues. C'est ce qui reprochait à LFI aujourd'hui, d'avoir joué avec le feu et d'avoir banalisé un discours antisémite à des fins électoralistes. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ?
Ça m'inspire le commentaire suivant. Un commentaire de Français juifs, encore une fois, qui commence à en avoir sérieusement assez, et depuis très longtemps, d'entendre danger, digues, union contre, etc. Alors, il faut peut-être en venir à des termes un petit peu plus forts. Répression, par exemple. C'est peut-être quelque chose qui peut s'envisager. Ça, on peut éventuellement
dans un pays démocratique, absolument.
Au bout de 25 ans de hausse continue des actes antisémites, à partir d'un niveau qui est infiniment supérieur à ce qu'était la réalité des actes antisémites dans les années 90, il faut peut-être à un moment donné changer de braquet, il faut peut-être abandonner le vocabulaire du danger pour dire il y a quelque chose qui s'est installé de manière durable et que nous devons extirper.
Je crois que vous acquiescez.
Bien sûr, parce que on peut parler comme ça longtemps et faire des constats. Bon, je vois qu'il y a certains constats qui sont pas faits, mais c'est pour ça que c'était important de les aborder. Mais à un moment, il va falloir qu'il y ait des sanctions. Et vous parlez de ce que vous avez, enfin, de votre alliance du Front populaire. Quand vous voulez remettre en cause, enfin, quand vous voulez la régulation carcérale qui entraînerait la libération de 20% des détenus, ça veut dire entraîner encore plus de laxisme judiciaire. Ce n'est plus possible. Il faut que ce soit sur les réseaux sociaux avec les comptes fermés, mais des condamnations systématiques et pour tout acte antisémite, raciste, qui entraîne et qui divise aujourd'hui la société française. Et vous avez plus que des ambiguïtés sur ça. Et ce laxisme, réellement, qui est votre...
Faites le lien entre deux choses qui n'ont rien à voir.
Non, pardon, je ne sais pas. Si
vous voulez me dire... Non, mais on peut avoir un point d'accord, pour une fois, sur un plateau.
Ce serait
si
pas
vous
mal.
Si vous voulez me dire qu'il faut appliquer totalement la loi Guesso, qui est un ancien député communiste, pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. C'est depuis la loi Guesso votée par la gauche qu'on dit l'antisémitisme, le racisme ne sont pas une opinion, c'est un délit. Alors je vous suis totalement. Moi, mais je souhaite, que, et vous l'avez pointé.
C'est juste
et vous l'avez pointé.
Quand c'est juste symbolique, quand c'est juste des condamnations symboliques,
je
ça ne
souhaite,
sert à rien, monsieur.
Je souhaite, vous
et ça
l'avez
n'est
point,
pas fait.
Je souhaite, vous l'avez pointé, que nous soyons, je suis un néo-député européen, tout comme vous, que nous soyons beaucoup plus fermes, parce que les GAFAM font ce qu'ils veulent, sur l'antisémitisme, le racisme en ligne, qui n'est pas condamné. Il va falloir en passer par des mesures autoritaires, et vous ne rencontrerez en ma personne aucun laxisme.
Jean-Yves Camus veut réagir.
Mais tout ne se passe pas sur les GAFAM. Il y a des agressions physiques.
Absolument.
Il y a des séquestrations avec violence.
La question a été soulevée.
Oui, non, mais parce que ces agressions physiques, quand elles ne sont pas condamnées. Parce que c'est une surviolence.
Pour les condamner.
Non, mais parce que souvent, la gauche parle des femmes.
Pardon, mais... Pardonnez-moi, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Je voudrais que Élie Corchia intervienne une dernière fois.
Oui, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire?
Merci.
Et ça, je le dis devant les députés de la nation qui sont là, et notamment quand on a vu tous ces plans de lutte contre l'antisémitisme qui se sont succédés, avec souvent de la bonne volonté, une bonne démarche. Mais soyons dans un constat, on est à la veille d'élections législatives, c'est un échec. Soit on se donne les moyens réellement de donner à notre pays les moyens de lutter contre ce fléau de l'antisémitisme. Et on comprend que ce n'est pas que l'affaire des Juifs, parce que c'est l'affaire de tous les citoyens, de tous nos compatriotes français. Vous savez, quand Napoléon a créé le consistoire en 1808, Yves Calvi, la devise depuis 216 ans du consistoire en France, modèle d'intégration à la communauté nationale, c'est religion et patrie. Alors soit on se donne les moyens de lutter contre l'antisémitisme avec la prévention qu'il faut, la répression qu'il faut et la judiciarisation qu'il faut. Et en ce sens, le signal est bon d'avoir mis en détention provisoire les deux jeunes de 13 ans qui ont commis ces crimes sexuels antisémites inacceptables. Soit on se donne les moyens de le faire, soit on continuera à se lamenter à chaque fois et ça n'est plus acceptable.
Merci d'avoir conclu ainsi.